le journal d'Antoine Mercier. France Culture, il est midi et demi. Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Ratko Mladic, ancien chef militaire des Serbes de Bosnie de 92 à 95, condamné à la prison à vie pour génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité. Jugement qui vient de tomber au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à La Haye, où on va retrouver dans un petit instant Pierre Benazé, analyse de Marie-Pierre Véraud. Au lendemain de son retour à Beyrouth, le Premier ministre libanais Saad Hariri suspend sa démission à la demande du président Michel Aoun. Explication avec Omar Waman sur place. Le coup d'État au Zimbabwe qui débouche sur une simple révolution de palais, puisqu'après la démission du président Mugabe, c'est l'ancien vice-président qui a été limogé il y a seulement 2 semaines qui revient et qui va être investi à la présidence. Commentaire dans cette édition. En France, le Front National dépose plainte contre la Société Générale qui a décidé de fermer les comptes du FN, suivi d'une conférence de presse de Marine Le Pen ce matin avec Frédéric Mettezo. Conseil des ministres, adoption de nouvelles règles pour l'entrée à l'université, nouvelle plateforme donc post-bac qui vise notamment à supprimer le tirage au sort. L'UNEF dénonce une sélection déguisée. Nous entendrons sa présidence et l'analyse d'Hakim Kasmi qui recevra également Gilles Roussel, le président de la conférence des présidents d'université. Dans la dernière partie de la grande table, Olivier Jasper.
Pape, voire gourou des émotions, nous recevons aujourd'hui le professeur de neurosciences et de philosophie à l'Université de Caroline de Californie du Sud à Los Angeles, Antonio Damasio. Dans son dernier essai, il entreprend pas moins que de nous raconter les origines de la vie par ce biais et la fabrique de la culture, cette société des affects dans laquelle nous vivons. On en reparlera avec lui à partir de 12h55.
Le jugement donc du tribunal international pour l'ex-Yougoslavie vient de tomber. L'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, 74 ans, condamné à la prison à perpétuité pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre, reconnu coupable au total de 10 chefs d'accusation. Pierre Benazé, bonjour. Vous avez suivi l'audience ce matin et aussi l'énoncé donc du jugement qui vient d'être rendu public.
Oui, effectivement, c'était le verdict qu'attendaient évidemment les victimes de cette guerre de Bosnie, cette guerre qui a duré plus de 4 ans entre 1992 et 1996. La perpétuité pour Ratko Mladic, c'est aussi pour eux, pour les victimes qui étaient présentes très nombreuses ce matin à La Haye pour entendre ce jugement. La perpétuité pour Ratko Mladic, c'est le jugement qui était attendu, le principal responsable aux yeux des Bosniaques, des massacres qui ont été commis pendant cette guerre, le principal responsable du siège de Sarajevo, le principal responsable militaire, ce siège qui a duré 44 mois pendant lequel plus de 5000 civils ont été tués lors des bombardements et par les tirs des francs-tireurs, souvent serbes, installés sur les hauteurs de la ville. Ratko Mladic a donc été condamné pour ce siège de Sarajevo. Il a aussi été condamné surtout pour génocide, pour le massacre de Srebrenica, alors qu'il dirigeait la VRS, l'armée des Serbes de Bosnie. Ratko Mladic a planifié, exécuté, supervisé cette reprise de l'enclave de Srebrenica par les forces serbes, une prise au cours de la, à l'issue de laquelle plus de 7 à 8 000 hommes ont été froidement abattus pendant 4 jours en juillet 1995 par les forces serbes, sous la responsabilité donc de Ratko Mladic, qui purgera désormais une peine de prison à perpétuité. C'était le dernier jugement pour le tribunal pénal international qui doit fermer ses portes le 31 décembre, quasiment un quart de siècle après le début de son travail.
Merci beaucoup Pierre Benazio. Effectivement, on va parler de cette période qui s'achève et de la suite aussi de la justice internationale et des perspectives qui s'offrent à elle maintenant. Signalons quand même qu'il y a de nombreux Bosniaques musulmans, il y a aussi des Serbes de Bosnie qui suivaient en direct cette retransmission du procès Mladic. Pour les Bosniaques qui représentent une grosse moitié de la population, Ratko Mladic est le boucher donc du siège de Sarajevo, vous l'avez rappelé, du massacre de Srebrenica. Et en Republika Srpska, eh bien, le ton avait été donné dès hier soir par le chef politique de l'entité des Serbes de Bosnie pour qui Mladic reste une légende du peuple serbe. Fin de citation. C'est donc la fin du procès Mladic, la fin des activités, vous le rappeliez Pierre Benazé, du tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, tribunal ad hoc. La justice internationale est donc passé sur cette guerre, la plus meurtrière en Europe depuis 1945, Marie-Pierre Béraud.
Oui, c'était l'une de ses missions et son ambition lors de sa création, juger les crimes de guerre pour la première fois 45 ans après le procès de Nuremberg. L'histoire dira si ce tribunal a trouvé sa place, sa vertu en tout cas, malgré le scepticisme qui prévaut lors de sa création, c'est sans doute d'avoir rendu crédible l'idée que même les pires dictateurs pourraient un jour devoir répondre de leurs crimes devant la justice internationale, que des présidents en exercice pouvaient aussi être poursuivis. Ce fut le cas pour Milosevic. C'est aussi un travail considérable pour l'histoire qui a été accompli par ces enquêteurs. Plus de 2 millions de documents vont être envoyés à Sarajevo pour y être conservés. Ils reconstituent le morcellement violent de l'ex-Yougoslavie. 1 million de pages, des photos, des vidéos, des enregistrements audio, autant de preuves qui, espèrent les enquêteurs, empêcheront à l'avenir tout déni, toute tentative de révisionnisme. Alors, certes, le tribunal n'a pas permis la réconciliation espérée. Ces manques sur la Serbie ou le Kosovo, certains acquittements qui ont scandalisé, celui du Croate Gotovina par exemple, atténuent quelque peu ses victoires. Mais ce sont maintenant des tribunaux nationaux sur place qui prendront le relais. Hormis pour le Kosovo, une chambre spécialisée vient d'ouvrir.
Alors donc, il reste la CPI, effectivement, l'avenir de la justice internationale qui est tout de même assez incertain, Marie-Claire.
Oui, alors il y a eu aussi le tribunal international pour le Rwanda. Il y a d'autres cours ad hoc pour le Cambodge, la Sierra Leone ou encore le Liban. Mais cette justice internationale sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité, elle s'incarne désormais dans la CPI, la Cour pénale internationale, une cour permanente et universelle. Avenir plus problématique, disiez-vous. En effet, seuls 124 États sur 193 l'ont ratifié. Parmi ceux qui n'ont ni signé ni ratifié, nous pouvons citer les États-Unis, la Russie, la Chine, la Turquie, la Syrie ou encore l'Iran, qui ne participeront donc pas aux éventuelles enquêtes et qui ne livreront pas de suspects. Autre grief, les 10 premières enquêtes ouvertes par la CPI concernent l'Afrique. Résultat, plusieurs chefs d'État africains s'en sont retirés. Ils souhaitent créer une cour pénale pour l'Afrique chez eux. Pour autant, la justice internationale n'est pas morte. Ainsi, pour la Syrie, c'est un mécanisme d'enquête internationale qui a été mis sur pied par l'ONU. La procureure, une Française, rassemble actuellement tous les documents, les témoignages sur les crimes de guerre. C'est une course contre la montre avant qu'ils ne disparaissent. Un matériau qui sera précieux à l'heure du jugement. Alors, ce jugement aura-t-il lieu devant une cour internationale? Finalement, peu importe. Les grandes machines comme la CPI devront peut-être laisser la place à des mécanismes plus légers. Actuellement, sur la Syrie, ce sont par exemple des tribunaux nationaux saisis par des ressortissants ou des ONG, en France notamment, qui travaillent sur certains crimes commis en Syrie. Et ce mécanisme international permet de nourrir les actes d'accusation.
Marie-Pierre Véraud. Le Premier ministre libanais Saad Hariri rentré hier à Beyrouth pour la fête nationale. S'est entretenu ce matin avec le président de la République, Michel Aoun, et il annonce donc que sa démission, qui avait été annoncée elle-même début novembre à Riyad, que cette démission est en suspens à la demande même du président Aoun. J'ai discuté de ma démission avec le président qui m'a enjoint d'attendre avant de la présenter pour permettre davantage de consultations. C'est ce qu'il a dit donc après son entretien. Et M. Hariri a donc accepté cette requête. Omar Waman, bonjour.
Bonjour.
Comment interpréter ce nouvel épisode, ce nouveau rebondissement?
Ce qu'il faut dire ici, Antoine, c'est que l'espoir est revenu au Liban après le retour hier soir, avant minuit, de Saad Hariri, qui a pu, vous l'avez dit, assister à ces commémorations du 74e anniversaire de l'indépendance du pays, aux côtés du président Michel Aoun. Les deux hommes se sont vus, ils ont discuté, selon une source, c'est bien, le tête-à-tête a été court, glacial, bref. Saad Hariri a bien, effectivement, présenté sa démission pour dénoncer la mainmise du Hezbollah sur le Liban. C'est ce que lui demandait l'Arabie Saoudite. Michel Aoun lui a demandé d'attendre, de la suspendre en quelque sorte. Saad Hariri a finalement accepté et s'est ouvert à cet espoir. Alors, désormais, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on voit depuis des années au Liban, à savoir des consultations, des négociations, c'est à savoir qu'au Liban, l'instabilité, c'est la norme, l'exception, c'est l'instabilité. Donc, des négociations, des consultations avec les différents partis pour sauver ce gouvernement Hariri, pour éviter une longue crise institutionnelle, facteur d'instabilité. L'objectif est d'amener le Hezbollah, qui fait partie de ce gouvernement Hariri, le Hezbollah qui est l'État dans l'État, donc il faut le pousser à faire des concessions, à cesser ses ingérences dans la région. Le Hezbollah intervient en Syrie, en Irak, mais aussi selon l'Arabie Saoudite, au Yémen, ce qui a provoqué la colère de Riyad et qui est à l'origine de cette crise libanaise.
Merci Omar Waman, donc en direct de Beyrouth. L'après-guerre en Syrie, Vladimir Poutine réunit en ce moment à Sotchi les présidents turcs Recep Tayyip Erdogan et iranien Hassan Rouhani, officiellement donc pour œuvrer au règlement à long terme du conflit syrien. Parallèlement, les principales factions de l'opposition syrienne ont entamé des négociations à Riyad pour tenter d'unifier leur position et en particulier sur le rôle qui sera dévolu dans le futur au président syrien Bachar el-Assad. Le coup d'état du Zimbabwe qui débouche sur une simple révolution de palais, puisqu'après la démission de Robert Mugabe, c'est l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa qui a été investi à la présidence. Il avait été limogé il y a seulement 2 semaines et il est donc fort probable, Nabila Hamel, qu'il s'inscrive, ce successeur, dans la continuité de son ancien mentor.
Il est vrai que celui qui est en passe d'assurer la transition est un homme qui a été un fidèle lieutenant de Robert Mugabe. Il a été de tous les gouvernements et s'il a vécu un très court exil en Afrique du Sud le 6 novembre, jour de son limogeage de la vice-présidence du pays, rien n'était négligé pour préparer son retour, un retour en forme de revanche que lui a bien préparé l'armée, la ZANU-PF, le parti au pouvoir, les vétérans de la lutte de libération qui étaient des inconditionnels de Mugabe et puis la rue, puisqu'elle a bougé et en masse, ce qui était impensable par le passé. On ajoutera également un soutien plus discret venu de l'extérieur, celui de la Chine, qui s'est très bien implantée dans le pays et qui a récemment reçu des responsables de l'armée. Bref, pour le moment, il n'y a donc, vous le disiez, qu'un changement d'homme. Ce sera tout de même l'homme qui aura fait tomber, non pas le régime, mais le vieux lion Robert Mugabe, qui aspirait à fêter ses 100 ans au pouvoir. Emmerson Mnangagwa a été vu par une grande partie du régime comme le successeur potentiel du président vieillissant et affaibli. Seulement, c'était compté sans les ambitions politiques de son épouse Grace. Le limogeage de cet homme était la ligne rouge à ne pas franchir et c'est en quelque sorte l'épouse ambitieuse de Mugabe qui a précipité sa chute. Le futur président, du moins pour la transition, a 75 ans. On retiendra pour mieux le situer qu'il a été ministre de la Sécurité d'État au moment où la répression de la révolte des Ndébélé dans le Matabeleland a fait 20 000 morts en 1983.
Nabila Hamel, merci beaucoup. Un petit mot de l'Allemagne, où on cherche toujours à sortir de la crise politique, mais la pression monte maintenant autour du patron des sociodémocrates allemands, Martin Schulz, pour qu'il accepte une alliance avec Angela Merkel dans un nouveau gouvernement. Le patron du SPD a pourtant répété à plusieurs reprises son refus de reconstruire cette coalition sortant avec la CDU de Mme Merkel, préférant une cure d'opposition pour se reconstruire. Un sondage ce matin affirme que 50% des Allemands souhaiteraient de nouvelles élections générales et les observateurs continuent de craindre une montée de l'AFD dans ce prochain éventuel scrutin qui pourrait avoir lieu au printemps. On salue l'invité de la dernière partie de la Grande Table, Antonio Damasio, bonjour.
Bonjour.
Neurologue et auteur de l'ordre étrange des choses, dont on va parler tout à l'heure. Ben, finalement, dans votre livre, vous évoquez aussi ces questions politiques et même vous faites peut-être un rapport entre populisme, montée des populismes et phénomène neurologique.
Oui, c'est ce qui est troublante dans la situation de l'Allemagne, c'est la possibilité d'une monte des mouvements populistes et de mouvements de violence. C'est quelque chose qui est malheureusement dans notre nature humaine et il y a seulement une chose à faire, c'est de aller contre cette possibilité de violence avec un effort intense de civilisation et ça passe par un effort d'éducation. Mmh. C'est seulement avec l'éducation massive qu'il est possible de retenir ces pulsions violentes et de faire monter, de donner de la place aux émotions positives qui sont très nourrissantes dans notre vie.
La vie, les sentiments et la fabrique de la culture, c'est le sous-titre de votre livre « L'ordre étrange des choses » publié chez Odile Jacob, dont on reparle dans quelques instants dans la dernière partie de La Grande Table.
Presque 12h45 sur France Culture, la suite de votre journal Antoine Mercier. La démocratie française menacée par les oligarchies financières, c'est le thème qu'avait choisi Marine Le Pen ce matin pour une conférence de presse.
Et oui, ça fait suite aux révélations de France Inter et de Mediapart, selon lesquelles la Société Générale aurait demandé de clôturer les comptes du Front National. La présidente, donc Marine Le Pen, affirme avoir été par ailleurs chassée de sa banque HSBC. Dans un tweet, elle dénonçait ce matin une persécution bancaire qui devient personnelle. Frédéric Mettezeau, bonjour.
Bonjour Antoine Mercier.
Donc j'imagine que Mme Le Pen a redit ce matin toute son indignation dans cette conférence de presse.
Ah oui, une Marine Le Pen très tendue, assise à côté de son trésorier, va le rendre Saint-Just. Fatwa bancaire, persécution, bannissement, acharnement, les mots sont forts. Marine Le Pen estime que l'état d'une démocratie se mesure à la façon dont on traite l'opposition. On veut nous ruiner, nous faire disparaître. Alors la présidente du FN se pose en porte-parole des opprimés bancaires.
Les oligarchies financières sont tentées de porter atteinte à la liberté de parole, aujourd'hui. Qu'elle soit d'ailleurs journalistique ou politique. Nous sommes en présence d'une tentative d'étouffement d'un mouvement d'opposition. Et il est du devoir de tous les démocrates de ne pas l'accepter. Il semble que les oligarchies financières qui se sentent protégées, voire encouragées par une sorte d'impunité, soient donc tentées d'intervenir de plus en plus dans le cours de la démocratie en France.
Marine Le Pen victime, sa posture favorite, elle révèle effectivement qu'HSBC veut fermer son compte personnel. Elle l'aurait appris ce matin, information que nous n'avons pas pu vérifier à cette heure, Antoine.
Frédéric, quand même sur le fond, est-ce qu'on connaît les raisons, une partie des raisons qui auraient poussé la Société Générale à vouloir fermer ainsi les comptes du Front National ?
Alors à entendre Marine Le Pen, non, nous n'avons eu aucune réponse. Elle annonce donc qu'elle va porter plainte contre la Société Générale pour discrimination, qu'elle a parlé de ses problèmes à Emmanuel Macron qu'elle a vu hier pour parler des élections européennes. Elle affirme qu'aucune banque sollicitée ne souhaite avoir le Front National comme client. Elle glisse au passage que la Société Générale est la banque du Parti Les Républicains présidée par Frédéric Oudéa, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. À une vraie question de fond, le financement de la vie politique, Marine Le Pen répond par son discours le plus classique qui soit, victimisation, théorie du complot. Elle tente aussi de rallier la presse à sa cause, et ça, c'est plus rare.
Merci beaucoup Frédéric Métezeau, chef du service politique de France Inter, en direct avec nous, avec Hélène Langlois.
En conseil des ministres ce matin, adoption de nouvelles règles pour entrer à l'université. La nouvelle plateforme post-bac vise notamment à supprimer le tirage au sort et à réduire le taux d'échec en première année de fac.
Oui, intitulé « Orientation et réussite des étudiants », l'objectif du texte, c'est ce qu'a dit en tout cas la ministre Frédéric Vidal, c'est qu'à la rentrée prochaine, nous soyons en capacité d'accueillir tous les bacheliers à l'université. Les opposants y voient cependant une sélection déguisée, alors que jusqu'à présent, la seule détention du bac autorisait l'inscription en fac. Le SNESUP, premier syndicat chez les enseignants dans le supérieur, appelait hier à combattre, je cite, le projet fou de sélection à l'université. Et donc l'UNEF dénonce également, sur un registre un peu moindre, une sélection déguisée. Sa présidente, Lila Lebas, était interrogée ce matin sur France Info.
Le ministère se cache derrière d'autres termes pour essayer de dire qu'il ne met pas en place une sélection à l'entrée de l'université. Pourtant, le projet de loi est assez clair quand on le lit, c'est-à-dire que les établissements pourront refuser des bacheliers faute de place dans certaines filières, donc les filières dites sous tension, sauf qu'on le sait bien, l'année dernière, c'était plus de 170 filières qui avaient plus de demandes que de places. Et vu qu'on attend 40 000 jeunes supplémentaires pour la rentrée prochaine, on se doute bien que le nombre de filières justement qui pourront sélectionner va augmenter d'année en année. Et donc c'est de plus en plus de jeunes, et notamment les bacheliers professionnels et technologiques, qui vont voir les portes de l'université se fermer.
Voilà donc pour la réaction de la présidente de l'UNEF, Hakim Kasmi. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Et alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de sélection ?
Alors si pour l'instant le gouvernement refuse de parler de sélection, il préfère les mots attendus ou prérequis, il y aura bien un filtrage à l'entrée de l'université, à l'image de la nouvelle plateforme qui sera mise en place à partir du 15 janvier, baptisée Parcoursup, censé faire oublier le triste APB qui avait laissé des milliers d'étudiants sur le carreau à la rentrée. Alors désormais, plus de tirage au sort, plus d'algorithmes, les étudiants devront faire 10 propositions et regrouper leurs choix, sauf que la petite nouveauté, c'est que désormais les universités auront la main sur les étudiants qu'elles voudront accepter dans leurs universités. Par exemple, dans les filières sous tension, si on estime qu'un étudiant n'a pas les prérequis et qu'il vient par exemple de bac pro ou de bac techno, il pourra très bien refaire une année de rattrapage pour revenir à niveau. Ce que dénonce une partie des syndicats, d'autant que pour mettre en place cette année de rattrapage, il faudra beaucoup de moyens financiers et humains. Selon le SNESUP, pour l'instant, il n'y aurait qu'une quinzaine d'universités qui auraient les moyens de mettre en place cette année de remise à niveau. Au-delà de ça, il y a l'aspect démographique. 40 000 étudiants supplémentaires encore cette année, idem l'année prochaine. Pour l'instant, le gouvernement et Frédéric Vidal refusent de créer de nouvelles universités. Il y aura juste 130 000 places prioritaires l'année prochaine, en particulier dans les filières sous tension. Est-ce que cela suffira ? Pas sûr, car car du coup, avec cette hausse démographique, eh bien, des filières qui jusque-là n'étaient pas sous tension pourraient bien le devenir à partir de l'année prochaine, car il y aura 700 000 nouveaux bacheliers qui arriveront l'année prochaine encore à l'université en première année de licence.
Alors, on salue notre invité qui se trouve à côté de vous, Hakim, Gilles Roussel, président de la conférence des présidents d'université, président de l'université Paris-Est, Marne-la-Vallée. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Le SNESUP donc parle d'un projet conservateur, une vieille idée de la droite, anxiogène, bureaucratique, c'est ce que déclare son secrétaire général. Deuxième étape d'une orientation libérale après la loi d'autonomie des universités conçue par Valérie Pécresse, c'était il y a maintenant 10 ans. Est-ce que vous accepteriez, vous, cette qualification de libéral, de filiation avec la loi Pécresse ?
Ah non, en l'occurrence sur les aspects libéraux et sur le fait que cette réforme n'était pas utile pour l'université et qu'il fallait pas bouger. Nous, on est en tant que président d'université complètement en ligne avec le ministère. Le système, ça a été évoqué tout à l'heure dans le petit reportage. APB, on a bien montré que le système n'était plus acceptable, que on allait vers des tirages au sort. On était incapable d'expliquer aux jeunes pourquoi ils avaient été acceptés ou refusés, et donc il fallait faire quelque chose. Et donc cette réforme, à notre avis, va dans le bon sens, puisque dans le même temps, elle permet de mieux orienter les jeunes, leur laisse le dernier mot, et laisse quand même la possibilité à tout jeune qui souhaite y entrer de venir à l'université. Donc s'il y a sélection, c'est certainement pas l'université.
Question d'Hakim Kasmi.
Le dernier mot, ça c'est théorique, parce que dans les universités qui n'auront pas de place, eh bien les étudiants seront refusés. Donc le dernier mot, les étudiants ne l'auront pas forcément.
Alors on va essayer de leur proposer un maximum de places. Donc il y a un travail qui est fait en ce moment avec les universités et le ministère pour essayer d'augmenter les capacités d'accueil là où c'est encore possible de le faire, sachant qu'il y a des endroits où, comme vous le disiez, effectivement on n'a pas les moyens d'ouvrir de nouvelles places parce que les universités ont déjà fait le plein. Donc il y a encore quelques marges de manœuvre dans telle ou telle université sur le territoire, donc il faudra aussi potentiellement accompagner les jeunes pour des mobilités, et puis des moyens supplémentaires qui sont promis. Il y a eu un amendement au projet de loi de finances de 2018 qui devrait permettre d'ouvrir quelques places supplémentaires. J'espère que ce sera suffisant pour éviter qu'on ait à se reproduire le phénomène de l'année dernière.
Alors la question financière est très importante pour les étudiants qui n'auront pas forcément les prérequis, notamment dans les filières sous tension, pense à psycho ou encore droit ou STAPS. Les universités comme la vôtre, par exemple à Marne-la-Vallée, devront mettre en place une année de remise à niveau. Vous, c'est un système que vous connaissez bien, vous l'avez déjà mis en place, vous êtes un établissement pilote, pourrait-on dire, sauf que cela inquiète une partie de vos enseignants d'ailleurs sur la question des moyens, car il faudra des heures supplémentaires et donc de l'argent et des locaux aussi. Or aujourd'hui, la faculté manque de locaux et d'argent.
Oui, alors ça c'est bien clair, hein. Nous on a demandé au ministère une augmentation du budget à proportion du nombre d'étudiants. On compte souvent 7000 euros par étudiant dans le supérieur, enfin à l'université. Si on multiplie par le nombre qui sont arrivés l'année dernière, 40 000 étudiants, on est à peu près à 280 millions d'euros. Ce qui est proposé aujourd'hui pour l'augmentation des budgets n'est pas à la hauteur de ces financements, c'est bien clair. Pour autant, voilà, la réforme va dans le bon sens. On souhaite qu'il y ait des moyens supplémentaires. Tout ce qu'on pourra obtenir, on essaiera de l'obtenir, mais on est bien conscient qu'il y a une contrainte budgétaire de l'État.
Alors le SNESUP dit que pour l'instant, il n'y aurait que 15 universités qui auraient les moyens de mettre en place cette année de remise à niveau.
Voilà, je ne sais pas bien comment ils ont fait ce calcul, puisque moi-même, au niveau de la CPU, nous n'avons pas eu d'échange au niveau de ces choses-là. En plus, probablement que les choses seront beaucoup plus complexes que ce qui est évoqué, puisque ça va dépendre des filières, comme vous l'évoquiez, des filières en tension, qui n'auront peut-être pas les mêmes choses que des filières qui, elles, ne sont pas en tension, dans lesquelles on va peut-être mettre des remédiations un peu plus fortes. Voilà. Donc, aujourd'hui, à ce jour, le nombre exact d'universités dans lesquelles va pouvoir se mettre en place des choses, on ne le connaît pas, et j'espère que dans la grande majorité, compte tenu du fait qu'on a déjà à beaucoup d'endroits des expérimentations qui ont été faites, des choses qui ont été faites de façon un peu moins publique que ce qui va être possible aujourd'hui, qu'on va être capable de les généraliser, de les rendre visibles pour l'année prochaine.
Une dernière question.
Alors, Gilles Roussel, aujourd'hui, on a 60% d'échecs en première année. Ça passe par la réforme, justement, le fait d'éviter cet échec en première année.
Voilà, donc on a un échec important en première année. On a l'habitude de dire, la ministre le dit, on le dit depuis longtemps aussi, il y a en gros 30% des jeunes qui sont à l'université, qui réussissent, il n'y a pas de problème, on les accompagne. Il y a 30% des jeunes. Ils ont plus de difficultés, mais on peut les faire réussir. C'est pour eux qu'on va mettre éventuellement des parcours un peu particuliers pour les renforcer. Et puis à 30%, Voilà, dans ces 30%, il y en a un certain nombre, probablement ils sont arrivés là par défaut, par les fameuses pastilles vertes dont on a entendu parler l'année dernière, qui était un choix obligé pour les étudiants.
Mais pour vous, il n'y a pas de tabou, oui, vous estimez que pas tout le monde peut partir à l'université, qu'il faut lever ce tabou aujourd'hui, c'est ça?
Aujourd'hui, alors, le tabou de dire tout le monde doit aller à l'université, moi je suis d'accord, tout le monde ne peut pas aller à l'université. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller à l'université, donc il ne faut pas non plus les forcer à venir à l'université. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des jeunes qui n'ont pas les attendus, les prérequis, on peut évoquer, et que les envoyer dans une licence générale en disant, voilà, on vous envoie et on ne s'intéresse pas du tout à votre parcours antérieur et la seule chose que vous puissiez faire, c'est échouer et ce sera de votre faute. Et bien là, ce qui est proposé, c'est de leur dire, voilà, vous n'avez pas les prérequis, mais on vous propose un parcours dans lequel on va vous accompagner et la responsabilité, voilà, ce sera celle des universités.
Il faut en terminer là, Hakim.
Gilles Roussel, merci d'avoir accepté notre invitation ici au siège de la CPU à Paris.
Gilles Roussel, oui, effectivement, merci beaucoup, merci à vous, Hakim Kasmi. Vous étiez donc avec Laurent Lucas pour la transmission de cet enregistrement, de cette interview. Un mot du temps, ensoleillé et doux sur la moitié nord, avant l'arrivée d'une perturbation qui va être active, venteuse, nous dit-on, par le nord-ouest. Un temps variable et sec dans le midi, des températures plutôt en hausse cet après-midi, 11 à 18 degrés du nord-est vers le sud, 19 jusqu'à 21 degrés localement sur l'extrême sud-ouest. Édition réalisée avec Yacine Bouzard, prochain journal 18h. Aurélie Kiffer.